Quelle joie de se retrouver pour faire un culte différent de celui que nous faisons d'habitude, un culte de baptême. Avant de laisser la place au baptême, j'aimerais avec vous réfléchir à quelques questions. Pourquoi se faire baptiser? Quel sens peut avoir ce geste aujourd'hui, en 2013? Pourquoi des jeunes gens comme Anna, Emmanuel, Guillaume veulent-ils le faire? Pour répondre à ces questions, j'aimerais me pencher sur l'histoire, sur la signification que le baptême pouvait avoir au premier siècle, au moment où débute le christianisme, au moment où les chrétiens prennent l'habitude de se faire baptiser. Et pour ceci, j'aimerais lire avec vous, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et au chapitre 2, les versets 37 à 41. Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit, « Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Voilà pour notre lecture. Alors, il faut reconnaître qu'on arrive là, avec ce passage, un peu au milieu de quelque chose, comme si on prenait un film en route. Ce que nous venons de lire, c'est une conclusion, ou plutôt la réaction à un discours qui vient d'être fait juste avant. Ceci mérite un petit éclaircissement, un petit rappel des événements. Et je vous propose de suivre le journal que Benjamin Caussade aurait pu faire ce jour-là pour rendre compte de l'événement.
Madame, Monsieur, bonsoir. Jérusalem, la capitale religieuse juive, ne cesse de faire parler d'elle. Il y a moins de 2 mois, la ville avait été agitée par l'arrestation, le procès éclair, puis l'exécution de Jésus de Nazareth. D'une façon surprenante, toute la ville avait pris parti pour la condamnation de cet homme, alors que beaucoup avaient placé de grands espoirs en lui et le portaient en triomphe quelques jours auparavant. On se souvient que sa mort avait été accompagnée d'événements spectaculaires, éclipses et tremblements de terre, qui avaient provoqué des dégâts dans la ville. Après sa mort, les remous avaient continué, puisque son corps avait disparu. L'explication donnée par ses partisans est qu'il serait revenu de la mort à la vie. Aujourd'hui, 50 jours après ces événements, Jérusalem voulait tourner la page et célébrer la Pentecôte normalement. Les Juifs du monde entier sont là, et les célébrations débutaient, lorsqu'un grand bruit provenant d'une maison fut entendu dans toute la ville. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial sur les lieux, Fabrice Mollier. Vous m'entendez ? Oui, Benjamin, je vous entends. Je me trouve actuellement devant la maison d'où tout est parti. Je suis au milieu d'une foule de badauds qui a couru lorsqu'elle a entendu un grand bruit en provenance de ce bâtiment. Alors figurez-vous que les habitants de cette maison ne sont autres que les partisans de Jésus de Nazareth. À l'arrivée de la foule, ils sont sortis de la maison et ont commencé à parler, mais à parler chacun des langues diverses. J'ai pu interroger autour de moi des personnes d'origine différente et chacun les entendait parler dans sa langue. L'un d'entre eux, nommé Pierre, s'est alors adressé à nous pour proposer une explication. Son allocution vient de se terminer. Il explique ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passe aujourd'hui est l'accomplissement d'une prophétie ancienne, une prophétie du prophète Joël prononcée il y a plusieurs siècles. Un instant que Dieu donnerait son esprit à tous les hommes. Il nous a répété que Jésus de Nazareth n'était plus mort, mais que Dieu l'avait ramené à la vie, accomplissant ainsi la prophétie du roi David dans les psaumes. Le discours de Pierre était parfois cru, mais il n'a pas hésité à accuser l'auditoire à plusieurs reprises de la mort de Jésus. Son allocution vient de se terminer, et la foule ayant entendu cela est secouée. Voilà pour ce qu'il nous a dit, Benjamin, et je vous avoue que, personnellement, j'ai du mal à savoir quoi en penser.
Merci Fabrice pour ce reportage. Nous vous tiendrons au courant de la suite des développements de cette affaire. Bonne matinée à tous.
Benjamin Caussade et Fabrice Mollier nous ont résumé le passage qui précède notre lecture. Notre passage débutait par cette question. Frère, que faut-il faire ? Les personnes qui ont entendu Pierre sont émues. Le texte nous dit qu'elles eurent le cœur transpercé. Elles sont touchées et elles ne savent pas quoi faire avec ça. Elles ne savent pas quoi faire avec ça, mais elles ne veulent pas non plus rester sans rien faire. Peut-être sont-elles secouées par le rappel de Pierre de leur responsabilité dans la mort de Jésus. C'est vrai que Jérusalem entière criait « Crucifie-le !» lorsque Pilate a posé la question « Que faire de Jésus ?» Mais je crois qu'ils sont aussi touchés parce qu'ils se souviennent de Jésus, de son enseignement de paix et d'amour, de son commandement de s'examiner soi-même plutôt que d'exiger un changement des autres, de son invitation au milieu de cette génération perverse à être un homme, une femme à part. Et là, maintenant qu'ils voient de leurs yeux de nouveaux signes miraculeux, ce message a un poids auquel ils ne peuvent pas résister. Ils veulent changer et ils demandent franchement « Que faut-il faire ?» La réponse de Pierre est claire. Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le baptême ? Le baptême, c'est un signe de l'union du croyant avec Jésus-Christ. Celui qui veut suivre Jésus veut changer de vie. Il ne veut plus désormais vivre pour lui-même, selon son propre désir, mais il veut désormais vivre en suivant Jésus, en suivant son enseignement. Et donc, lors du baptême, le croyant mime devant tous la décision qu'il a prise. Il est plongé dans l'eau, et ce plongeon représente sa mort, la fin de sa vie pour lui-même. Et lorsqu'il ressort de l'eau, c'est le signe de la nouvelle vie qu'il commence avec Jésus-Christ. Ce que je vous dis, on le retrouve dans la Bible. Je vous lis ce que Paul écrit aux Romains. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Le croyant est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui signifie que le baptisé appartient dorénavant au Dieu trinitaire. En même temps que ce signe de mort et de renaissance, le baptême représente également un bain, le bain de la purification des péchés. Le péché est une souillure qui touche tous les hommes, une faute morale. Alors, ce n'est pas super à la mode comme notion, et pourtant, il faut bien reconnaître que le mal est en nous. J'aimerais vous lire cette citation de Donald Miller. Je pense que chaque personne un peu honnête, chaque personne consciente des principes qui sont à l'œuvre dans sa réalité, en arrive à un point où elle cesse d'accuser un groupe particulier, le pouvoir ou l'humanité entière, d'être responsable des malheurs du monde, et elle fait face à ses propres responsabilités. Le problème n'est pas quelque chose d'externe. Le problème, c'est cette sorte de bête affamée qui vit en moi. Voilà pour Donald Miller. La Bible aussi, la Bible nous met en garde. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Nous sommes tous touchés par le péché. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est le pardon de Dieu par Jésus-Christ. Le baptême que notre Église pratique veut suivre le modèle du baptême biblique. Nous administrons un baptême par immersion à des croyants suffisamment âgés pour professer leur foi. Le baptême par immersion, ça veut dire que on plonge le baptisé entièrement dans l'eau. Et ce plongeon illustre parfaitement la mort. Et la sortie de l'eau illustre parfaitement la vie nouvelle dont veut rendre témoignage le croyant. Ceci explique la quantité d'eau que nous utilisons aujourd'hui. Quant à l'âge des baptisés, nous disons qu'une telle décision de changer de vie ne peut être prise sérieusement que par des personnes conscientes de l'engagement qu'elles prennent. Et que cet engagement ne peut pas être pris par des nourrissons. C'est pourquoi vous assistez aujourd'hui à des baptêmes d'adultes ou de grandes adolescentes. Et c'est pour ça que les candidats rendront eux-mêmes témoignage de leur décision avant leur baptême. Mais revenons à notre texte. L'appel de Pierre au baptême rencontre un succès qui ferait rêver n'importe quel prédicateur, puisque la Bible nous dit que 3000 personnes prirent la décision de changer de vie, de se faire baptiser et de suivre Jésus. Et ils changent effectivement de vie. Je vous invite à lire la suite de notre texte dans Actes, toujours dans Actes au chapitre 2, et cette fois les versets 42 à 47. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Donc on vient de nous dire que 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. la crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Que font ces chrétiens qui ont voulu changer de vie ? Ils passent tout leur temps ensemble. Ils s'entraident. Ils mettent en commun leurs biens. Ils prennent soin les uns des autres. Ils passent aussi du temps avec Dieu, à écouter l'enseignement de Jésus transmis par les apôtres, à le prier, à le louer. Et ces changements, eh bien, ces changements se voient. Les chrétiens avaient la faveur du peuple et régulièrement, tous les jours, nous dit la Bible, de nouvelles personnes s'ajoutaient aux fidèles. N'est-ce pas une belle histoire ? En tout cas, cette histoire a continué et nous avons des témoignages historiques de ce que les gens disent des chrétiens dans les premiers siècles. Alors pour les partager avec nous, J'ai invité un professeur d'histoire, M. O'Haraud, qui va partager quelques-uns de ses témoignages.
Alors, tout d'abord, un certain Lucien, un grec originaire de Syrie, ayant vécu au second siècle de notre ère. Alors, il cite dans son livre « La mort de Pérégrinus », il présente les chrétiens comme des gens naïfs. Les propos se veulent négatifs, mais ils correspondent à ce que les chrétiens, à ce que le chrétien veut vivre. Je cite donc. Ces malheureux sont avant tout convaincus qu'ils sont immortels et qu'ils vivent éternellement. Ils méprisent donc la mort que beaucoup affrontent volontairement. Leur premier législateur les a persuadés qu'ils étaient tous frères. Dès qu'ils ont abjuré les dieux de la Grèce, ils adorent leur sophiste, crucifié, et conforment leur vie à ses préceptes. Aussi méprisent-ils tous les biens et les tiennent-ils pour d'usage commun. Un autre témoignage un peu plus positif, elle se situe dans la lettre à Dionysse. On ignore l'auteur de cette lettre, mais il est écrit à un dessinateur païen. Mais on pense qu'il a été composé pareillement aux alentours de 200 à Alexandrie. Je cite, les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lieu échu à chaque fois. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant des lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère est leur patrie, et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils partagent tous la même taille, mais non la même couche. Ils aiment tous les hommes, et tous les persécutent. On les déconnaît, on les condamne. On les tue, et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres, et ils enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout, et ils surabondent toutes choses. On les méprise. Et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte voici deux exemples donc, de témoignages de ce qu'ont dit les chrétiens.
Merci, Monsieur Haro. Voilà pour les témoignages historiques. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, on ne trouve plus ce type d'écrit. Les chrétiens sont connus, ou du moins le monde pense les connaître. Peu de personnes se posent, comme au second siècle, la question de savoir qui sont les chrétiens. Et de plus, aujourd'hui, on aime retenir les erreurs du passé, de l'époque où le christianisme a été la religion dominante et n'a pas toujours été exemplaire, loin de là. Les chrétiens sont-ils encore différents ? Je le crois. Je crois qu'être chrétien, c'est être différent. C'est déjà être en paix avec Dieu. En paix parce que on répond à son appel. C'est également être en paix avec soi-même. Avoir la paix de savoir ses péchés pardonnés, de savoir que sa vie va dans la bonne direction. Et puis c'est aussi une façon différente de vivre avec les autres, avec les chrétiens, comme avec les non-chrétiens. Et aujourd'hui encore, des femmes, des hommes sont interpellés par la façon de vivre des chrétiens et veulent les rejoindre. Et nos candidats au baptême nous le rappellent ce matin. Bien sûr, les chrétiens ne sont pas à la hauteur de la cible qu'ils se sont fixée, être semblable à Jésus. C'est qu'en fait, le processus de transformation de nos vies prend du temps. Dans la Bible, l'apôtre Paul avoue son impuissance. « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire que je ne suis pas par nature dans ce que je ne suis... » Pardon. Je répète, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Luther dit également la difficulté qu'il a à suivre Jésus. Avec une image nautique qui colle au baptême. Je sais bien que le vieil homme qui est en moi doit être noyé pour que surgisse l'homme nouveau. Mais il sait nager, le bougre, et il résiste. Le baptême, ce n'est pas un point d'arrivée. Jour après jour, la transformation est en marche. Aussi, je trouve que le baptême est utile à nous qui sommes déjà passés par là. Pour nous, il est un rappel d'engagement que nous avons pris. Et ce rappel nous invite, nous exhorte à rester fidèles à cet engagement. Alors, laissons-nous interpeller. Et renouvelons ce matin l'engagement que nous avons pris, sachant que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Jésus est avec nous. Il nous a donné des sœurs et des frères pour nous entourer. Et maintenant, nous en avons trois nouveaux avec nous pour nous aider à avancer. Je posais en question, en introduction, trois questions. Pourquoi se faire baptiser ? Quel sens a ce geste ? Et pourquoi des jeunes gens veulent-ils se faire baptiser aujourd'hui ? En ce qui concerne les deux premières questions, je pense y avoir répondu. On se fait baptiser pour montrer son attachement à Dieu. Hier comme aujourd'hui, le sens reste le même, celui de montrer sa décision de renoncer à sa vie pour soi-même, pour vivre pour Jésus. En ce qui concerne la troisième question, pourquoi ces jeunes gens veulent se faire baptiser, je laisserai chacun des candidats vous le dire dans un instant. Mais avant de laisser la parole, je voudrais vous inviter à réfléchir. Toi, tout d'abord, qui as fait le choix de suivre Jésus, peut-être que voir et entendre l'engagement de Anna, d'Emmanuel et de Guillaume te touche ce matin. Profite de ce jour pour réfléchir à ton engagement, pour le renouveler, pour le renforcer. Et toi aussi, qui n'as pas fait ce choix de vie, peut-être toi aussi es-tu touché. Profite toi aussi de ce jour pour te poser la question. Ne veux-tu pas essayer, goûter à cette vie avec Jésus? Il offre une nouvelle vie, en paix avec Dieu, en paix avec toi, à travailler pour la paix avec les autres. Alors réfléchis.